une synthèse des questions qui ont été déposées dans cette belle boîte et qui restent encore disponibles. Voilà une synthèse. Voilà, Nathalie.
Merci. En fait, il y a eu pas mal de questions, mais malheureusement, il y a des orateurs qui n'ont pas pu rester avec nous. Donc, il y a eu plusieurs questions qui ont été, commentaires qui ont été adressés à chacun des orateurs, tels que Marie-Rose Moreau, le professeur Grimaldi, etc. Peut-être qu'on peut les voir ensemble, et si ça suggère des débats, on peut peut-être en passer un petit peu de temps. Alors, une des questions, est-il judicieux de faire des programmes de TP spécifiques pour des patients de même culture, ou bien préférer le multiculturel, et dans ce cas, comment adapter, ou quelles précautions doit-on prendre pour adapter les programmes? Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont une expérience par rapport à ça et qui voudraient intervenir? Vaut-il mieux faire des programmes verticaux, je dirais, oui, pour simplifier, c'est-à-dire prendre des gens d'une même culture et faire un programme adapté à une culture donnée, ou bien est-ce qu'on prend un contexte multiculturel, et à ce moment-là, quelles sont les précautions à prendre pour qu'un programme d'éducation thérapeutique puisse s'adresser à des gens venant d'horizons culturels différents? Il y a une question sur les traducteurs, parce qu'à un moment donné, Marie-Rose a parlé de la traduction mot à mot. Et il y a une personne qui souligne le rôle des médiateurs, en fait, transculturels, hein, qui ne traduisent pas forcément mot à mot, mais qui, eux, sont des médiateurs de la culture. Donc moi, je pense que... Enfin, je ne suis pas Marie-Rose, mais... ceci dit, je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est quand elle parlait d'un traducteur professionnel, hein, mais pas d'un médiateur culturel. Donc effectivement, quand on a affaire à un traducteur, il vaut mieux faire de la traduction mot à mot, et puis c'est un rôle différent que d'être médiateur. Voilà. Bon, je pense que peut-être on peut faire appel à des associations comme Icambéré, où il y a des gens qui sont des associations de femmes africaines, par exemple, vivant avec le sida, etc. Bon. Il y a d'autres gens qui ont des...
Je vais juste rapporter une expérience qui avait été faite par Dr Sachon et Marine Albron, surtout, à la Pitié-Salpêtrière, avec des gens sourds. Et elle-même ne parle pas le langage des signes. Et donc, elle avait, pour ses consultations, un traducteur en langage des signes. Et quand le traducteur en langage des signes fait la traduction... il ne traduit absolument pas ce que les gens vivent. Et donc, il y avait la nécessité d'avoir en même temps un médiateur culturel qui lui permettait l'interprétation de ce qui était traduit en langage des signes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est probablement pas l'un ou l'autre, mais c'est les deux qui sont nécessaires. En tout cas, dans cette expérience-là.
Oui, c'est intéressant. Plutôt un commentaire qui suggérait à Marie-Rose d'utiliser représentation du médecin plutôt que préjugé du médecin. Alors, il y avait aussi un commentaire sur ce qu'on demande aux soignants de s'ouvrir à l'interculturalité, et on demande et quid si les patients ne s'ouvrent pas, par exemple les femmes qui refusent de voir un gynécologue homme. Donc, bon, ça, c'est pas des... On peut pas tellement répondre à ça, mais c'est un commentaire. Ensuite, les questions ou les commentaires s'adressaient à Monsieur Grimaldi. Alors, l'incertitude ne peut-elle pas être source d'angoisse, voire de dépression? Je pense qu'il a répondu à cette question. Il y a quelqu'un qui lui demande incertitude du diagnostic diabétique, mais depuis quand y a-t-il cette incertitude? Toujours l'incertitude, comment maintenir la relation de confiance nécessaire entre le patient et le soignant quand on navigue à vue? Une action qui s'inscrit dans le temps en ce qui concerne la maladie chronique. Donc, c'est vrai que c'est... Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire des commentaires là-dessus? Sur l'incertitude? Oui.
Oui, ça marche. Et oui, l'incertitude, on la vit pleinement, je rajoute, parce que justement, le plus on peut donner, je crois que tout le monde sera d'accord, le plus on peut donner des points de repère aux patients, entre autres temporels, que ce soit un délai de consolidation pour une fracture ou vous allez respirer mieux dans quelques heures, à chaque fois, c'est une manière de réduire l'angoisse chez les patients. Donc, le plus on peut le faire, le plus on peut aussi nous se montrer professionnels, pertinents et en confiance dans ce qu'on fait, le plus on peut transmettre la confiance aux patients.
Oui, juste un commentaire sur l'incertitude du diagnostic du diabète, c'est depuis toujours. Le fait d'arriver à définir une norme donne le problème de l'incertitude de la frontière de la norme. Ça a toujours été.
Et juste un lien sur l'incertitude. Un certain nombre de gens qui analysent la gestion catastrophique de la grippe pensent qu'un des éléments clés, c'est de ne pas avoir partagé les zones d'incertitude sur ces questions-là directement avec le public. C'est-à-dire de partir toujours de cet a priori que les gens ne sont pas capables d'entendre de l'incertitude, alors que c'est sans doute au contraire l'inverse qu'il aurait fallu faire.
Par rapport à l'incertitude, je pense que l'éducation thérapeutique, c'est aussi se mettre au niveau 2 et de lâcher un peu ces apparats de certitude de professionnels de soignants. Ça peut être aussi un levier que de reconnaître qu'on n'a pas réponse à tout et que donc le patient peut lui-même mettre en œuvre ses expertises et ses expériences plus facilement, je pense.
J'ai deux questions pour Monsieur Burtin. Alors, n'est-il pas dangereux de demander à des professionnels de l'urgence de s'engager dans l'éducation thérapeutique qui demandent un engagement professionnel fort alors que leur mission serait plutôt d'agir à la place d'eux rapidement? N'est-ce pas opposé et dangereux?
J'ai que ma seule modeste expérience pour répondre. Et à condition, je crois qu'à partir du moment où on a une formation adaptée, qu'on connaît ses limites, je crois que c'est valable pour tous les soins qu'on peut porter à nos patients. Non, effectivement, la seule chose que je dis, c'est qu'effectivement, en pratique aux urgences, on ne peut pas tout faire, on n'a pas le temps. Hein. Mais des soignants qui seraient au moins sensibilisés aux problèmes de l'éducation thérapeutique pourraient repérer les patients qui auraient des besoins et les orienter. Voilà, et ça s'arrêtera, de même qu'on peut déterminer d'autres besoins que l'éducation thérapeutique pour des patients, pourquoi pas cela aussi. Voilà, je crois que c'est une bonne occasion.
Oui. Je voudrais juste faire le commentaire de dire que finalement, il y a toujours de l'éducation, même quand elle n'a pas lieu. Et c'est sûrement quand elle n'a pas lieu, d'ailleurs, qu'elle est la plus importante, parce que on apprend toujours dans toutes les situations. Donc un patient, dans la façon dont il est pris en charge aux urgences, il apprend. Et si vous lui donnez effectivement des informations implicites qui vont le conduire aux urgences une prochaine fois, il y reviendra. Et c'est en grande partie la façon dont sont pris en charge les urgences, notamment dans la maladie asthmatique, qui font que les gens reviennent aux urgences. Parce qu'ils apprennent, puisqu'ils sont en grande partie passifs. Et finalement, ce qu'on leur donne, en plus, c'est très important, parce que si on fait une veille scientifique, souvent la façon de faire aux urgences n'est absolument pas validée. Et on a l'habitude, effectivement, de faire à la place des gens. Et quand vous faites à la place des gens, ils apprennent beaucoup. Ils apprennent à être passifs pour le futur.
Il y avait une deuxième question qui, en fait, est peut-être un commentaire sur la question qui a été posée en fin d'intervention. Hein. Peut-on faire de l'éducation thérapeutique sans évaluation? L'évaluation n'est-elle pas une étape de la démarche éducative?
Alors là, je suis bien d'accord, et moi aussi je m'interroge. Je n'ai qu'une évaluation par définition très informelle, faute de structure adaptée, et les patients, je ne les revois pas en tout cas. Alors peut-être j'espère qu'ils ne sont pas morts, mais en tout cas, on ne les revoit pas trop. Je n'ai pas de statistiques non plus, mais ça manque certainement, et je maintiens que je fais le TP parce que je crois qu'il y a un changement de comportement dans les patients à un moment dans ce que je peux réussir à faire avec eux. Voilà. Après, il manque certainement l'évaluation, ça c'est sûr.
D'accord. Il y a des questions pour Pierre-Yves à propos du parcours éducatif imposé. Ne doit-il pas être défini ou nuancé? N'y a-t-il pas un regard différent suivant que nous sommes professionnels ou institutionnels? J'imagine que c'est professionnel de santé ou institutionnel dans le sens appartenant à l'assurance maladie, par exemple.
Oui, il y a forcément une logique différente. La difficulté pour les soignants, c'est d'apprendre la logique des institutionnels. Et la deuxième réponse, c'est que Lié au contexte actuel, il est probable que beaucoup d'institutionnels ne savent absolument pas ce qu'il faut faire pour répartir l'offre, et notamment d'éducation thérapeutique, telle que, en fait, elle a été impulsée par la loi, et avec assez peu d'éléments pour que cette possibilité qu'aurait tout patient en maladie chronique de participer à un programme d'éducation thérapeutique, pour que cette possibilité ait lieu. Et donc, voilà, les choses sont à faire. Alors, toute la discussion est de savoir si on fait des parcours fléchés ou si on ne les fait pas, ou si on fait des offres. Mais la réponse est totalement ouverte. C'est de la négociation, hein.
Une deuxième question, toujours sur le fait d'imposer ou pas. Alors, on ne peut pas imposer l'éducation thérapeutique aux patients, mais ne devrait-on pas imposer aux soignants d'informer le patient qu'il existe des programmes d'éducation ? Qui veut réagir à ça ?
Ça ne sert à rien d'imposer. Qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient une réponse, pavlovienne. Ils vont le faire pendant une semaine, puis après... imposer aux médecins d'informer.
On ne peut pas imposer aux gens d'informer sur ce qu'ils ne connaissent pas. Alors, il y a un grand problème d'information, qui n'est pas seulement de l'information sur le fait qu'il y a de l'éducation thérapeutique qui existe, mais qui est aussi beaucoup de la sensibilisation sur ce que l'éducation thérapeutique peut apporter comme bénéfice aux soignants eux-mêmes. Les soignants n'informent, ou en tout cas n'utilisent l'éducation thérapeutique à partir du moment où ils y voient déjà un bénéfice pour eux-mêmes.
Alors là, il y a un commentaire d'ordre général. De plus en plus de professionnels de santé sont formés à l'éducation thérapeutique et on entend de plus en plus dans les services, ce n'est pas un bon patient, ce n'est pas un bon groupe, il n'est pas cortiqué, ou alors il a des complications, tant pis pour lui, il n'avait qu'à faire, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué ? Ok. Alors ensuite, il y a des questions pratiques. Est-ce qu'il y a des programmes d'éducation thérapeutique sur Internet ? Est-ce qu'ils sont utilisés, voire appréciés par les patients ? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent des programmes d'éducation thérapeutique sur Internet ? Bon, il n'y en a pas, voilà. Il n'y a pas de réponse, hein, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de programme. L'éducation thérapeutique par téléphone est-elle utile ? Si oui, dans quel type de maladie ? Avez-vous des exemples de réussite ? Qui travaille par téléphone en éducation thérapeutique ? Ah, nous avons un... Voilà, il y a Igor.
Oui, Igor Rousse, médecin urgentiste, et je m'occupe d'une formation à l'IPSEM sur la réponse téléphonique aux patients. Bon, c'est une question difficile, mais je crois que ce qui est intéressant dans le domaine, c'est d'avoir un regard sur qu'est-ce que renseigne l'appel téléphonique inopiné. Quel regard il nous donne sur l'éducation du patient ? Et je crois que c'est peut-être ça l'angle le plus intéressant.
Un autre avis. Donc, c'est vrai que l'éducation thérapeutique au téléphone, c'est une position géniale. On est en plein dans le terrain avec le patient. Et donc là, c'est un moment important où on peut discuter avec lui de quelle option on va discuter. Donc il faut être préparé au téléphone, ça ne prend pas 2 minutes. Mais c'est des moments qu'on apprécie beaucoup. C'est ces moments qui sont extrêmement importants pour le patient et souvent il y a quelque chose de très positif qui sort. Mais il faut être disponible.
Moi je voulais rajouter une chose. L'analyse de la littérature internationale montre que les Américains en particulier utilisent beaucoup le téléphone comme moyen d'éducation thérapeutique, mais pas comme éducation thérapeutique initiale, comme suivi et comme renforcement. Donc, il y a plusieurs maladies. Bon, c'est vrai pour le diabète, mais c'est surtout vrai pour les anticoagulants et c'est vrai pour l'insuffisance cardiaque. C'est très fréquemment cité comme moyen de renforcement d'une éducation qui a eu lieu ailleurs, généralement à l'hôpital.
Oui, une expérience juste rapide qui rentre tout à fait dans les thèmes, c'est la gestion des urgences. La gestion d'urgence avec des gens qui ont une maladie chronique et qui se retrouvent à un certain moment avec un accident qui peut être géré par eux-mêmes nécessite très souvent l'utilisation du téléphone pour accompagner en fait la gestion de l'incertitude, c'est-à-dire d'arriver à résoudre le problème. Alors il y a deux façons de faire. Ça peut être simplement le conseil, Mais si on cherche que ce soit éducatif, c'est l'accompagnement en fait du patient dans ses propres raisonnements et dans les actions qu'il va mettre en place.
Tout à fait, c'est ce que je voulais dire effectivement sur l'aide à la décision. Les patients ont besoin d'une aide à la décision. Très souvent, ils savent en termes de repérage, mesure, etc. Ils savent la décision qu'il faut prendre, mais ils ne la prennent pas. Et en fait, c'est un moment privilégié pour aider les gens à la décision. Et surtout quand on le fait pas seulement sur ce que tu disais, sur la forme de donner un blanc-seing ou le top, mais simplement en accompagnant cette aide, cette aller vers la décision. Ça me paraît vraiment un moment très intéressant.
Il y a une dernière question. À propos de la prise en charge de patients qui ont un ulcère, qu'ils soient d'origine artérielle ou veineux, quelle éducation thérapeutique faut-il faire une formation IPSEM en complément d'un DU plaie et cicatrisation? Quelqu'un a-t-il de l'expérience sur l'éducation thérapeutique pour les patients qui ont des ulcères, qui pourrait donner un avis? Enfin, la formation IPSEM, ça ne peut pas faire de mal.
Dans le diabète, certaines études montrent réduction de 50% des amputations si on fait de la prévention secondaire. Donc oui, ça existe, en tout cas dans le diabète. Après l'ulcère veineux et tout ça, ça je sais pas.
Voilà, on a fait le tour des questions qui ont été posées jusqu'à présent.